France Inter, le 7-10.
Et nous sommes le jeudi 18 avril. Bonjour à tous, bienvenue sur Inter. Xavier Demagny, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, l'Europe annonce à son tour des sanctions contre l'Iran.
Après les États-Unis, réaction à l'attaque contre Israël le week-end dernier. Compte rendu du sommet des 27 dans un instant depuis Bruxelles. Nous verrons aussi qu'une guerre numérique se joue entre les deux ennemis. Un couvre-feu pour les mineurs instauré à Pointe-à-Pitre, annonce du ministre de l'Intérieur en Guadeloupe pour enrayer la délinquance sur l'île. À suivre encore le laboratoire Biogarant, bien connu des Français. Ces fleurons des médicaments génériques, peut-être bientôt sous pavillon indien, le rapport des Français à l'intelligence artificielle et Marcel Pagnol, dont on célèbre les 50 ans de la disparition aujourd'hui, nous serons dans sa Provence natale.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous, je reçois une grande chercheuse française qui mène une carrière exceptionnelle aux États-Unis. Ce soir à Paris, elle reçoit le prix Léopold Griffuel de la Fondation ARC pour ses travaux en immunologie du cancer. Myriam Mérade à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec le député RN de la Somme, président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale, Jean-Philippe Tanguy. 9h20, Léa Salamé reçoit la comédienne Béatrice Dalle.
France Inter.
Après les États-Unis, c'est donc au tour des Européens d'imposer de nouvelles sanctions contre l'Iran. Conséquence de l'attaque sans précédent menée par Téhéran le week-end dernier contre Israël. Les chefs d'État et de gouvernement étaient réunis hier en sommet à Bruxelles. Sur place pour Inter, Angélique Boin.
4 jours après l'attaque sans précédent contre Israël, les Européens redoutent toujours une riposte qui pourrait faire s'enflammer la région. Dans leur déclaration commune, les 27 appellent d'abord l'Iran et ses groupes alliés comme le Hezbollah à cesser complètement toutes les attaques. Mais ils exhortent aussi toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour éviter des tensions supplémentaires dans la région, en particulier au Liban. Le maître mot, c'est désescalade, résume l'Élysée. Et pour marquer tout de même leur ferme condamnation de l'attaque iranienne, les Européens vont renforcer leurs sanctions à l'encontre de l'industrie militaire du régime des Mollahs. La France y était favorable, comme l'a indiqué à son arrivée le président Macron.
Nous sommes favorables à ce qu'il y ait des sanctions qui puissent viser aussi l'ensemble de ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque de samedi à dimanche dernier et qui sont aussi utilisés sur le théâtre ukrainien, je le rappelle.
Certains États européens veulent aussi sanctionner les gardiens de la Révolution, l'unité d'élite du régime de Téhéran, mais cela se heurte toujours à des questions juridiques, a rappelé le chancelier allemand Olaf Scholz. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
Les 27 qui, comme les États-Unis, tentent donc d'éviter l'escalade régionale. On apprend ce matin par le biais de plusieurs médias américains et israéliens que des frappes ont bien été envisagées en représailles contre l'Iran, mais qu'après un entretien entre Joe Biden et le Premier ministre Benjamin Netanyahou, aucun ordre n'a finalement été donné. Ce dernier, Benjamin Netanyahou, réaffirme au passage le droit d'Israël, je cite, à se protéger. Pendant ce temps, c'est une autre guerre qui se joue entre les deux ennemis jurés. À coup d'attaque informatique, Téhéran vise sans compter l'État hébreu qui dénombre depuis le 7 octobre pas moins de 800 attaques contre des infrastructures, soit 3 fois plus que l'an dernier. Reportage de notre envoyé spécial Ajra Mohammad.
La désinformation et le renseignement, ce sont les deux priorités pour l'Iran et ses alliés en lançant ces attaques informatiques. Chuck Freilir, chercheur à l'université de Tel Aviv, étudie les méthodes des hackers iraniens depuis le début de la guerre. En voici une.
Ils piègent des soldats israéliens sur des sites de rencontres avec des profils de jolies femmes qui les abordent. C'est du phishing. Ça permet à l'Iran ou à Hamas de prendre le contrôle de leur ordinateur.
Ces dernières années, l'Iran a investi en masse le terrain numérique pour atteindre l'ennemi.
Ils orientent une très grande partie des jeunes à l'université et à l'armée vers les études informatiques et les unités cyber. C'est très inquiétant pour le futur.
Mais en face, l'État israélien lui aussi met les moyens. Avira Matsaba travaille à la Direction nationale de la cybersécurité.
Nous développons en ce moment le cyberdôme, à l'image du dôme de fer qui intercepte les missiles. Lui neutralise les cyberattaques. Ce qui compte, c'est la technologie et la capacité à l'utiliser de la bonne façon, mais aussi la coopération.
Une coopération international entre Israël et ses alliés, confrontés eux aussi à ce qu'Avira Matsaba appelle le cyberterrorisme.
Ajra Mohammad, envoyé spécial d'Inter en Israël avec Sandrine Malon et Alexandra Vardy. En bref, encore, l'armée israélienne confirme l'entrée à Gaza de 8 camions du programme alimentaire mondial, arrivés par le port d'Ashdod, largement insuffisant selon les humanitaires au regard de la situation humanitaire catastrophique dans l'enclave.
Il est 7h05, un couvre-feu instauré à Pointe-à-Pitre pour les mineurs.
Annonçant Guadeloupe du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en déplacement sur place pour y lancer l'une de ses désormais fameuses opérations Place Nette contre le trafic de drogue. Un couvre-feu en réponse à la forte poussée de la délinquance dans le territoire des Antilles.
Tous les mineurs de moins de 18 ans ne pourront pas circuler dans les rues de Pointe-à-Pitre après 20h. Il s'agit évidemment de rappeler à chacun son rôle de parent. On ne peut pas laisser des enfants de 12, 13, 14 ans avec des armes circuler à 22h dans la rue, sans prendre à des policiers, sans prendre à des touristes, sans prendre à des passants. L'État ne laissera pas faire une délinquance qui, on le constate, est de plus en plus jeune et de plus en plus armée.
Gérald Darmanin et cette annonce depuis la Guadeloupe. Dans le Nord, deux ados de 14 et 15 ans ont été placés en garde à vue après le décès d'un homme de 22 ans à Grande-Synthe, victime d'une violente agression en début de semaine. Et cette affaire vient s'ajouter à plusieurs faits divers récents impliquant des mineurs, dont la mort de Chemseddine, 15 ans, à Viry-Châtillon en Essonne. Gabriel Attal doit s'y rendre ce matin, alors qu'il fête aujourd'hui ses 100 jours à Matignon. Il devrait y faire des annonces sur l'autorité. La présidente des députés RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, s'en amuse.
Comme le dit une réflexion populaire, je trouve que l'autorité va à Gabriel Attal comme un tablier à une vache. Il a des qualités de communication, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été successivement porte-parole du parti, puis porte-parole du groupe, puis porte-parole du gouvernement. Il est maintenant porte-parole du président, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Et pour l'instant, on a vu véritablement aucune mesure mise en œuvre avec une quelconque efficacité.
Le chef de l'État a par ailleurs demandé à son Premier ministre hier de lancer une grande concertation sur l'ultra-violence chez les plus jeunes. Marine Le Pen, qu'on entendait depuis l'île de la Réunion, déplacement dans le cadre de la campagne des européennes. Hier, le chef de l'État s'est affiché à Bruxelles et pour la première fois aux côtés de la candidate de son camp, Valérie Hayet, qui dirige le groupe centriste Renew au Parlement européen. Et Jean-Luc Mélenchon a tenu meeting à Roubaix, nous y serons à 7h30, accompagné de la militante de la cause palestinienne Hassan. La conférence qu'ils doivent tenir tous les deux à Lille se déroulera finalement dans une salle de spectacle après l'annulation de l'université face à la polémique, notamment sur l'affiche de l'événement.
Il est 7h08, c'est un fleuron français des médicaments. Et il est à vendre.
Le laboratoire Biogarant, filiale du géant pharmaceutique Servier, 32% du marché des génériques à lui seul. Il risque, Isabelle Raymond, de passer sous pavillon indien.
Biogarant, c'est un portefeuille de 900 médicaments différents et notamment l'amoxicilline, l'antibiotique le plus prescrit en France, quasiment 13 millions de boîtes l'hiver dernier. La filiale de Servier a spécialisé dans le médicament générique et donc à vendre, avec 4 repreneurs sur les rangs, dont 2 entreprises indiennes, toutes les deux spécialisées dans le médicament générique. Aujourd'hui, la moitié de la production de Biogarant est effectuée en France, 8600 emplois au total, essentiellement des sous-traitants. La rentabilité du médicament générique n'est pas évidente à assurer en France, en raison notamment d'une taxe sur les laboratoires, y compris pour les génériques, déplorait le patron de Biogarant sur France Info à l'automne dernier. Si l'un des 2 repreneurs indiens emporte la mise, absolument rien ne garantit qu'il y aurait un intérêt à maintenir la fabrication en France. La balle est désormais dans le camp de Bercy. Le ministère de l'économie pourrait bien invoquer la question de la souveraineté pour bloquer la vente.
Isabelle Raymond, là c'est à la concurrence chinoise que l'entreprise Systovi, spécialisée dans les panneaux solaires, n'arrive pas à résister. Installée à Carquefou, près de Nantes, elle a été placée en liquidation judiciaire et va cesser son activité faute de repreneur. On risque désormais de réfléchir à 2 fois avant de monter dans un avion Boeing. Déclaration sidérante hier devant le Sénat américain d'un lanceur d'alerte, ex-responsable du constructeur aérien, qui l'assure. Chaque passager montant à bord d'un avion Boeing court un risque. Nous serons aux États-Unis dans le journal de 8h.
7h09, elle a débarqué dans nos vies il y a un an et demi.
Rémi.
L'intelligence artificielle générative, ChatGPT en tête, et qui peut créer de toutes pièces du texte, des photos, désormais du son ou de la vidéo. On parle régulièrement ici des craintes et des dangers qu'elle représente. Mais que perçoivent les Français de cette évolution? Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
Vous nous révélez ce matin les enseignements d'un sondage mené par l'Institut ViaVoice pour le groupe informatique S2I. Et pour une large majorité, tout ça est encore très abstrait.
Oui, d'après ce sondage, il n'y a que 19% des Français qui affirment avoir déjà testé l'un des outils d'intelligence artificielle générative. Paradoxalement, quand on cite le nom du site ChatGPT, là, plus d'un sondé sur deux dit l'avoir déjà essayé. La notoriété de l'outil a donc largement dépassé celle de sa technologie. Guillaume Leprince est responsable des solutions IA chez S2I à l'origine de cette étude.
On a d'un côté les politiques qui veulent faire de la France un champion de l'IA. Et ce qu'on voit d'un autre côté, c'est que ça a quand même du mal à toucher une grande partie de la population. Les gens ont plus utilisé ChatGPT, mais ne font pas forcément lien entre ChatGPT et l'IA générative.
Et dans le milieu professionnel, plus d'un sondé sur cinq dit que l'IA est au moins en début de déploiement sur son lieu de travail.
Justement, Julien, l'intelligence artificielle suscite-t-elle des craintes chez les Français interrogés ?
Oui, mais là aussi, il y a des résultats inattendus. La menace pour l'emploi n'arrive qu'en quatrième position des craintes. La désinformation, la déshumanisation et la dépendance arrivent en tête des peurs pour plus de 8 sondés sur 10.
C'est surtout lié aux réseaux sociaux, les premières craintes que l'on voit. Faire la différence entre le vrai et le faux, c'est tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a énormément de fake news, on a énormément de choses qui sont générées par des IA.
Enfin, parmi ceux qui ont des attentes plutôt positives envers l'IA, ce sont les plus de 50 ans qui sont les plus nombreux à espérer que la technologie puisse aider à suivre leur santé ou joue un rôle au quotidien d'assistant personnel.
Julien Baldacchino, étude à retrouver sur le site de France Inter. On connaît l'affiche de l'autre demi-finale de Ligue des Champions de foot, le Real Madrid a sorti le tenant du titre Manchester City au tir au but hier soir et se retrouvera face à un autre gros morceau, le Bayern Munich. Mardi, le PSG s'est aussi qualifié, il affrontera Dortmund. Enfin, son nom fait résonner en nous l'accent du Sud, Marcel Pagnol, dont on célèbre aujourd'hui les 50 ans de la disparition. Académicien, écrivain, cinéaste dont la région natale a marqué son œuvre. On ne compte plus d'ailleurs les rues ou établissements scolaires qui portent son nom. C'est le cas de ce collège à Pertuis, près d'Aix, même si les élèves ne sont pas tout à fait au point. Reportage Fabien Ledu de France Bleu, Provence, évidemment.
C'est une personne, il y a son portrait en mosaïque devant l'entrée là-bas du collège.
Et c'était qui, Marcel Pagnol ?
Je sais pas du tout.
Ah, mon ami, c'est que la chose est importante.
La gloire de mon père, le château de ma mère, Manon des Sources.
Jamais entendu parler.
J'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurais jamais rien.
Déjà, je pense que c'était le fondateur du collège, déjà, sûrement.
Tu penses que c'est lui qui a fondé le collège ?
Tu me fends le cœur, hein ? Allons, César.
C'est un écrivain.
Ah oui, c'est un vieux monsieur. Bon, maintenant, il est mort il y a des années. Il a vécu dans les collines, il a été en vacances dans les collines et tout.
Eh oh, Lily !
Eh oh, Marcel !
La gloire de mon père, le château de ma mère et le dernier, le temps des secrets, je crois. C'est des œuvres parce que il y a des centaines de personnes qui ont lu les livres, qui ont regardé les films et tout.
J'ai lu le livre, le film et aussi la BD.
C'est vrai que les histoires, elles sont assez poétiques et il y a quelques phrases philosophiques.
Bon sens et logique d'un français moyen. Fantasmagorie de Jean-Baptiste.
L'école, elle porte peut-être son nom, mais on n'en parle pas du tout.
C'est dommage, non ?
Ouais, je pense qu'on devrait plus en parler.
Alors, qu'est-ce qu'il raconte, le Marcel ?
Que je suis content.
Et pour rattraper le retard, Nicolas, plusieurs expositions et hommages prévus en Provence dans les prochains mois. Une rétrospective aussi à la Cinémathèque de Paris et un musée Pagnol en 2026, près de Marseille, au pied du Garlaban.
Merci Xavier Demagny. Dans 3 minutes, le feuilleton de la France olympique à Marseille, justement, deuxième grande ville de ces Jeux après Paris. C'est là que se dérouleront notamment les épreuves de voile.